Voilà, mes amis, on est prêts à écouter la parole de notre Dieu. Le message de ce matin, c'est un titre Jésus, le monde à l'envers. L'enseignement de Jésus prend souvent à contre-pied et renverse le mode de pensée de ceux qui l'écoutent. Il n'y a qu'à voir les Juifs à son époque, il y avait une notion de la réussite basée sur la famille, par exemple, et Jésus ne se marie pas. Réussite basée sur le pouvoir, et Jésus monte sur un âne, un ânon même, et fréquente les pécheurs. Réussite basée sur la richesse, et Jésus n'avait même pas d'endroit où habiter. Il est né dans une étable, alors qu'on attendait un Messie roi dans un palais. Christ est roi. Il est mort crucifié entre des brigands, le contraire d'une victoire pour un roi. Réussite aussi basée sur la bénédiction d'avoir des enfants. Et Jésus n'a pas eu d'enfants dans la chair, mais il a eu des myriades d'enfants dans l'esprit. Je vous propose ce matin quelques-uns de ces renversements, le monde à l'envers dont Jésus nous parle. C'est renversements ont en commun de parler de ce que l'être humain croit être la réussite dans la vie et de montrer ce qu'elle est réellement vue de Dieu et de la part de notre Dieu. On va tirer ce message de trois lectures, Luc 18, 9 à 14, qui nous parle d'un pharisien et d'un publicain, Matthieu 5, versets 3 à 6, qui nous parle de béatitude et surtout de la part d'humilité, et puis de Matthieu 16, 21 à 26, qui nous dit qu'on doit tout laisser à Jésus-Christ. Alors, la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18, 9 à 14, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, collecteur d'impôts pour les Romains, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel et se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus prend le cas du pharisien qui connaît la réussite sociale. Sa vie est remarquable, en tout cas remarquée. On peut estimer que devant Dieu, il a réussi. Il obéit à la loi, lui. Il a réussi dans la vie. Mais aux yeux de Dieu, il n'a pas réussi sa vie. À côté, un personnage mal aimé du peuple, il a juste réussi à, entre guillemets, rater sa vie, toujours du point de vue du peuple. Profession publicain, c'est-à-dire sous la botte de l'ennemi en quelque sorte. Mais ça, c'est la vision des Juifs. Le cœur de cet homme était peut-être différent. Il était donc rejeté par les Juifs, il n'était pourtant dans le temple. Il est bien dit qu'il est monté au temple comme le pharisien. Ça veut dire qu'il le fréquentait manifestement. Mais lui, il était replié dans son coin. Il n'occupe pas le devant de la scène. Alors lui, Jésus, excusez-moi, je ne suis pas à la bonne page, pardon. Voilà, donc cet homme n'est pas au devant de la scène. D'ailleurs, du point de vue des gens qui étaient là, il manquait plus que ça, qu'il soit au devant de la scène, à l'opposé du pharisien. Mais celui qui connaît aux yeux de Dieu la vraie réussite, c'est bien lui, le publicain. Bien sûr, on l'a tous compris. parce que Dieu voit l'attitude de son cœur comme il voit l'attitude de nos cœurs. Conséquence, il est accepté par Dieu qui lui pardonne. Il connaît la paix qui découle de la réconciliation avec Dieu, qui est juste, qui est saint, qui est amour. Et Jésus conclut par une inversion, si on peut dire. Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain a connu l'échec qui élève, la réussite de l'échec. Dans le sermon de la montagne de Matthieu 5, versets 3 à 6, on va lire juste le verset 3. Heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement, car le royaume des cieux est à eux. Jésus renverse encore ici la conception humaine et apporte une nouvelle dimension à la vie. Selon nous, le bonheur, la réussite sont quand tout va bien, quand on a une bonne estime de soi, quand on vit dans l'aisance matérielle, même si elle n'est pas forcément énorme, quand on est reconnu. Et Jésus affirme que c'est lorsque on vit pour et avec Dieu qu'on est dans la vraie vie. Et pour connaître cette dimension profonde, il faut accepter de se reconnaître faible, pauvre, démuni devant Dieu. Le publicain reconnaît sa pauvreté intérieure devant Dieu, et alors la conséquence, c'est qu'il est ressorti de là déclaré juste. La mission pour laquelle le Messie est venu, ben Jésus le définit lui-même en disant « L'Éternel m'a choisi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » La paix qui en découle permet un épanouissement profond. Par rapport à ce qu'on vient de dire, on est au contraire du défaitisme, on est dans la victoire. On est dans les bras d'un Dieu qui veut être victorieux sur les âmes. Heureux, nous dit le verset 4 de Matthieu 5, ceux qui sont tristes, je vais mettre des guillemets à tristes, affligés, parce qu'ils seront consolés. On a le droit d'être triste, on a le droit d'être affligé. Est-ce qu'on a le droit de rester à vie, triste et affligé, quand on voit ce que Dieu fait pour nous? C'est une question que je vous laisse ouverte. En tout cas, ce verset est une affirmation déconcertante. Ce message-là se retrouve dans celui de l'apôtre Paul quand il écrit « Je me réjouis non pas de votre tristesse, mais de ce que cette tristesse vous ait amené à changer d'attitude. » En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement dans les cœurs, un changement qui conduit au salut. Et lorsqu'on a accepté le salut dans nos vies, on ne regrette jamais. 1 Corinthiens 7, versets 9 et 10. L'Éternel m'a oint, dit Jésus en reprenant cette prophétie donnée sur lui par Ésaïe, pour consoler les affligés. Et ça, c'est dans Luc 4 et dans Ésaïe 61, des textes qu'on connaît bien. Heureux ceux qui sont humbles. Matthieu 5, verset 5. Voilà, c'est le monde à l'envers, c'est le titre de ce message de ce matin. Ceux qui réussissent selon la norme de notre société sont ceux qui se battent, qui ont la volonté du pouvoir, qui veulent devenir des chefs. Mais en agissant dans l'humilité, on entre dans le plan de Dieu et on devient peut-être même des chefs. On devient ce pourquoi Dieu nous a créés. Le monde dit, et ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Billy Graham lui-même, « Bienheureux les intelligents, car ils hériteront l'admiration de leurs amis. Bienheureux les ambitieux, car ils hériteront la prospérité. Bienheureux ceux qui ont du talent, car ils auront du succès. Bienheureux les riches, car ils hériteront une foule d'amis et une maison avec tout le confort moderne. » Mais Jésus prononçait lui des paroles percutantes et révolutionnaires. Il faisait des déclarations absolument contraires à cette conception moderne du bonheur. « Heureux les humbles », disait Jésus. Alors ce genre de réussite, se reconnaître pauvre devant Dieu, n'est pas naturel à l'être humain. Pourtant, aux yeux de Dieu, elle est nécessaire. Pour nous, Nous avons admis cela depuis longtemps, peut-être dans nos vies de chrétiens. Pour vivre avec Dieu, pour le connaître, il faut reconnaître notre pauvreté intérieure et notre richesse en Dieu. Mais Paul nous fait réfléchir sur le reste de notre vie avec le Seigneur. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, nous dit Colossiens 2:6. On peut manifester dans sa vie chrétienne une assurance spirituelle bien marquée en parlant de conversion, mais l'humilité devant Dieu est nécessaire. Mais pour la suite, c'est l'assurance dominatrice qui serait la preuve de l'action de Dieu dans la vie du croyant. Alors pas dominatrice dans le sens de dominer sur les autres, mais de dominer sur nous-mêmes, sur nos cœurs, pour mieux affirmer notre appartenance à Dieu. Paul affirme, comme vous avez reçu Christ, marchez avec lui, la tête haute devant le monde. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que j'ai rajouté, que le Seigneur nous veut, il nous veut la tête haute devant le monde, mais il nous veut à son écoute et à ses pieds pour apprendre la vie et la présenter devant le monde. Alors, humilité, pauvreté intérieure, eh bien, il n'y a qu'à voir aujourd'hui dans la vie astronomique. Certains astronomes n'hésitent pas à dire que plus ils découvrent et plus ils se rendent compte qu'ils ne savent rien. Par exemple, Timothy Ferris, un écrivain américain contemporain, écrit « La diversité du cosmos est telle qu'il est probablement juste de dire que nous n'avons même pas commencé à imaginer et encore moins à l'observer. » Certains savants ont l'humilité de reconnaître leur petite connaissance de l'univers. Et nous, nous nous targuerions de connaître le Créateur dans son ensemble, de l'enfermer dans une connaissance orgueilleuse. En tant qu'enfant de Dieu, comme l'astronome, nous avons commencé à le connaître, juste commencé à le connaître. Mais c'est déjà si grand d'avoir commencé à le connaître. Gloire à Dieu. Et pour réussir à connaître davantage Dieu, il faut encore et toujours de l'humilité. C'est triste souvent, si l'on réfléchit sur soi-même, de s'apercevoir que l'on peut être comparé à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3, par exemple, qui disait « Je suis suffisamment riche, je n'ai besoin de rien. » C'est au verset 17. Le constat fait par le Seigneur était pourtant différent. Il écrit « Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Par ma négligence à connaître Dieu, par sa parole, où il se révèle à moi, je prouve souvent que je pense le connaître suffisamment. Et pourtant, je connais peu Dieu. J'ai des choses importantes à faire pour lui et je dois apprendre de lui pour les faire. Mais alors, après coup, je me rends compte que je me refroidis. Je deviens tiède. J'allais presque dire anémique. Parce que j'ai oublié qu'il fallait que je me nourrisse jour après jour pour grandir et progresser. Alors nous sommes en plein dans le sujet de la réussite de la vie. Je suis sur terre pour connaître Christ et vivre pour lui, c'est la réussite de ma vie. Alors réussir sa vie, c'est aussi lié au fait de reconnaître ses limites, de reconnaître où on en est avec Dieu, de reconnaître où en est notre soif de Dieu, de reconnaître notre désir de connaître la joie de la présence de Dieu, où on en est dans tout ça, de se nourrir spirituellement de lui, lui qui est le pain de vie, lui qui est la source d'eau vive. Alors, quand j'essaie de trouver par mes propres forces toutes ces choses que Christ met à ma disposition, alors c'est l'échec, parce que j'ai besoin pour vivre la réussite de Christ, d'être conduit par lui. Alors il y a un autre renversement que Jésus professe et vit. S'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour acheter sa vie? On trouve ce texte dans Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors, quoi de plus significatif que de gagner le monde pour parler de réussite? On voit dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent qu'il y a bien plus important. Et parmi ces choses, c'est dans un sens de sauver sa vie, d'avoir la certitude de la vie éternelle avec Dieu. Dieu met tous les moyens possibles et imaginables à la disposition du monde pour cela. Mais ça commence par renoncer à soi-même. Ça continue par prendre sa croix et suivre Christ, suivre le Seigneur. Alors, c'est sûrement pas ça qui est instinctif à l'être humain, n'est-ce pas? C'est même tout à fait contraire à la logique de mettre l'homme en avant. L'apôtre Pierre s'offusque logiquement envers Jésus-Christ qui vient d'annoncer sa mort. Il dit « Mais surtout pas ça, Seigneur !» Pour lui, c'était la défaite. « Tu ne vas pas te sacrifier quand même !» Mais quand il a su quel était le but, il a changé d'avis, bien entendu, comme nous avons changé d'avis. Alors, la mort à soi-même, c'est clairement pas une attitude normale pour quiconque. Et on est bien heureux d'avoir compris que notre attitude doit être celle de remettre notre vie entre les bras de notre Seigneur. En fait, prendre sa croix, c'est juste rechercher la volonté de Dieu. C'est pas chercher à se faire du mal. L'intérêt des autres aussi est important, parce que la volonté de Dieu, c'est l'intérêt des autres. Un exemple, en me mariant, j'ai pris ma croix. Bon, ça peut faire rire dit comme ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça signifie? Que j'ai décidé de plaire à ma femme? Que je voulais mettre mes intérêts en veille pour lui laisser la place? Bon, je n'ai pas toujours vécu ça pleinement, n'est-ce pas? Dieu en est témoin. Je fais de mon mieux. Mais, dans cette vie de mariage, quand on est marié, quel épanouissement on a quand c'est réciproque. Ça provoque alors le bonheur et c'est là la réussite. Alors Jésus a renoncé à tout. Il ne nous demande pas de renoncer à tout ce qu'il nous a donné. Pourquoi nous aurait-il donné des choses pour que nous y renoncions? Simplement disons merci. Jésus a renoncé à tout. Il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur, nous dit la parole. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. La mort sur la croix, nous dit Paul dans Philippiens 2. Jésus a pris sa croix. Il est allé jusqu'au bout des intentions que Dieu lui avait formulées. Il a renoncé à ses intérêts par amour pour moi, pour vous, pour nous. Il nous appelle aussi à prendre notre croix, à vouloir avoir cette tendance à aller au bout avec Dieu de toutes les intentions que Dieu met dans nos cœurs. En laissant la place, ce que je considérais en tant qu'homme comme un échec, mais que je considère aujourd'hui comme une réussite, parce que je ne cherche pas mon intérêt. Alors, j'ai tout intérêt à renoncer à vouloir réussir par moi-même, que ce soit dans ma vie de retraité, dans ma vie familiale, sentimentale, etc. J'ai tout intérêt à vouloir vivre tout cela avec et pour Dieu. Seigneur, je renonce à chercher à me plaire, je renonce à gagner pour moi, et je veux chercher à te plaire, et je veux chercher à gagner par toi. Alors pourquoi Jésus enseigne-t-il tout ça? Parce qu'il sait que l'amour de nous-mêmes finit par détruire nous et les autres à cause de l'égoïsme et de l'orgueil. Quelqu'un a dit un jour « Dieu connaît notre cœur insatiable dans ses désirs, avec ses prétentions sans bornes, ses révoltes dans les jours d'épreuve. Il nous avertit que les coups de la vie nous laissent briser si nous sommes éloignés de Dieu. Et quelque part, c'est un petit peu à l'esclavage de nous-mêmes que Dieu veut nous arracher pour nous donner quelque chose de beaucoup plus ouvert sur la vie, la vraie vie. Alors se soumettre à Dieu, c'est le contraire que d'être dans l'avilissement. C'est l'épanouissement qu'il nous faut connaître. Et principalement, et peut-être ça paraît secondaire, j'allais dire adieu la tristesse, bonjour la joie. Les chrétiens montrent souvent des visages sérieux et tristes. Un chrétien, ça rigole. Pas besoin de farigoule ou de vin blanc pour ça. Un chrétien, ça a de l'humour. Un chrétien, c'est heureux. La vie chrétienne est une fête. Alors, bien sûr qu'il y a des moments difficiles, mais Dieu est là pour dire, mais mon ami, je suis à côté de toi, regarde-moi, regarde dans ta parole tout ce qui peut te faire du bien. Et alors, adieu l'inquiétude, bonjour la sécurité. Adieu le légalisme, bonjour la liberté spirituelle. Paul écrit, tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Philippiens 3, 8. Voilà. On peut chercher une vie facile en tant qu'être humain. On peut chercher une vie réussie. Mais rien ne sera mieux que la reconnaissance de notre faiblesse et la base de la réussite est là. Que nous remettons à Dieu, et c'est Dieu qui réussit à travers nous, parce que la vie continue et la réussite est là. Alors on a vu que Jésus renverse souvent la logique humaine. Alors peut-être aujourd'hui on estime qu'on est dans une impasse, qu'on est fatigué, que rien ne va, que nous sommes passifs au milieu des épreuves. L'évidence de cela, ça s'appelle l'échec, mais c'est oublier que la reconnaissance de notre incapacité peut nous ouvrir devant Dieu. Et le fait de venir à lui dans la confiance, c'est le meilleur moyen pour connaître la réussite. Alors, et ça sera la phrase de conclusion, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Ils attendent tout de Dieu et Dieu les fera réussir dans ses œuvres. Amen.